Radio Éthique vous propose une info durable réalisée par Pascal Marcadji.
Oui, les OGM sont des poisons. En septembre dernier, souvenez-vous, le Nouvel Observateur publiait une enquête explosive. C'était son titre en une. Oui, les OGM sont des poisons. D'un côté, le professeur de biologie moléculaire, Gilles-Éric Serralini, publiait une enquête menée pendant 2 ans sur des rats, sur les effets du maïs transgénique, le NK603, et l'herbicide, le Roundup, une enquête qualifiée d'originale par l'Agence de sécurité sanitaire et par le Haut Conseil des biotechnologies, qui ont estimé qu'il n'y avait lieu ni de remettre en cause les évaluations précédentes, quant à elles menées sur une période de 3 mois, ni l'importation de ce maïs en Europe, et l'étude du professeur Serralini d'être retirée de la très sérieuse revue Food and Chemical Technology, qui avait accepté de se rétracter. Le journaliste Guillaume Mallory, auteur de cette enquête du Nouvel Obs, dénonce le Golden Holocaust, le conflit d'intérêts entre certains scientifiques et les groupes industriels. À son tour, Stéphane Foucard, journaliste au Monde, spécialiste des questions de sciences environnementales, publie La fabrique du mensonge.
C'est le prolongement d'enquêtes que j'ai menées pour Le Monde ces derniers mois, ces dernières années, et qui recouvrent des sujets assez divers, dont je me suis rendu compte, finalement, après les avoir traités, que souvent, ils procédaient d'une même logique où la science n'est pas mise à profit pour fabriquer des connaissances ou augmenter le savoir disponible, mais au contraire, où elle est mise à profit pour faire accroire des idées fausses, pour faire passer dans l'opinion des choses qui ne sont simplement pas vraies.
L'agnotologie, la culture de l'ignorance, type comme cela a été fait aux États-Unis, faire croire que fumer est inoffensif, l'idée passe d'autant mieux avec une caution de scientifique.
Ben oui, elle passe. Quand elle passe avec la caution de la science, elle passe avec beaucoup plus d'efficacité. Par exemple, pendant de nombreuses années, une grande part de la population américaine a été persuadée que fumer ne provoquait pas de maladie particulière. Et si cela a été possible, c'est que les cigarettiers américains ont mis en œuvre une grande campagne d'infiltration de la science, de manipulation de la science, par laquelle on a fabriqué du doute et de l'incertitude sur quelque chose à propos duquel il n'y avait absolument aucun doute précisément et aucune incertitude sur le fait que la cigarette provoque un certain nombre de maladies, dont le cancer du poumon.
On croit fumer du tabac, mais outre le goudron, les cigarettes contiennent aussi du polonium, substance radioactive qui accroît la dépendance et qui fait que le fumeur s'irradie lui-même de l'intérieur. Fumer, pas moral si on veut, sauf que la même logique s'applique aux pesticides.
L'idée qu'il y a derrière le fait que fumer serait immoral, par exemple, est là aussi quelque chose qui a été largement instrumentalisé par les industriels du tabac, et parfois en recourant d'ailleurs à la science. Pour l'alimentation et pour d'autres dossiers, comme par exemple certains pesticides qui sont très suspectés d'être la cause principale du déclin des abeilles, évidemment les problèmes sont assez différents dans la présentation, mais les méthodes qui sont mises en œuvre, par lesquelles on va instiller du doute, ou par lesquelles on va mettre en difficulté ou attaquer la science, disons, mainstream, restent généralement les mêmes. Donc, ce que je me suis attaché à se faire dans ce livre, c'est à décortiquer les moyens par lesquels, finalement, la science était infiltrée, instrumentalisée, la manière dont le discours scientifique et le personnel scientifique étaient parfois utilisés pour faire passer des mensonges, simplement, dans la société.
Exemple, les insecticides néonicotinoïdes. Ces insecticides sont la principale cause du déclin des abeilles.
En France et en Europe, il y a en ce moment un dossier en cours qui est celui des insecticides néonicotinoïdes qui sont déployés depuis une vingtaine d'années, dont les apiculteurs savent de manière assez certaine qu'ils sont une des causes majeures au déclin qu'ils observent dans leurs ruchers. Et dans mon livre, j'explique comment la recherche s'est reconfigurée sous l'action des industriels, sous l'action des firmes agrochimiques, pour finalement produire une recherche de distraction qui va par exemple mettre systématiquement l'accent sur les pathogènes naturels, sur le changement climatique, sur tout ce qui n'est pas les insecticides. Or, finalement, plus la recherche avance, plus on se rend compte que ces fameux néonicotinoïdes qui gainent les semences qui sont mises en terre pour les grandes cultures, maïs, coton, etc., eh bien, sont la cause majeure du déclin des abeilles. C'est quelque chose que, finalement, on aurait pu savoir il y a très longtemps, on aurait pu réagir il y a très longtemps, si la science n'avait pas été instrumentalisée de la sorte.
Les scientifiques visés par l'enquête de Stéphane Foucard, La fabrique du mensonge, ce sont, bien sûr, ceux dont le rôle est d'évaluer les substances mises sur le marché.
Les scientifiques, c'est un terme qui recouvre énormément de communautés diverses. Il y a les scientifiques qui travaillent pour l'industrie, qui travaillent à développer des produits, puis il y a les scientifiques qui, sur l'autre versant, en fait, sont chargés d'évaluer les risques liés à telle ou telle substance ou à tel ou tel produit qui est mis sur le marché. Ce sont ces scientifiques-là qui sont spécifiquement visés par les industriels, qui sont disons, incommodés par certaines recherches. Donc il y a une manière très simple qui a été inventée dans les années 60 par les cigarettiers américains, c'est simplement de financer de la recherche. C'est de se préoccuper de la recherche qui va porter un jugement sur mon produit. Par exemple, Syngenta a investi de l'argent dans de la recherche écotoxicologique sur le déclin des abeilles. Évidemment, tous les programmes de recherche qui ont été soutenus ainsi étaient des programmes de recherche qui excluaient explicitement la recherche d'un lien entre l'utilisation d'insecticides et le déclin des abeilles.
Avec les OGM, on a l'impression de redéclencher une guerre des religions, dixit Guillaume Mallory. Et de fait, l'étude menée par le professeur Serralini consistait entre guillemets simplement à mettre en doute l'absence d'effet de ce maïs.
Pour les OGM, la thèse que je soutiens dans ce livre, c'est qu'il y a une sorte d'inversion des rôles avec la volonté de la part de certains chercheurs de créer du doute sur la nocivité des OGM. Je pense notamment à l'étude par l'équipe de Gilles-Éric Serralini. Mon opinion est que cette étude ne visait pas réellement à augmenter le savoir disponible sur les effets sanitaires de ces OGM, mais plutôt à mettre en doute l'absence d'effets. De ce point de vue, d'ailleurs, il y a une sorte d'analogie qu'on peut faire entre la création du doute par les industriels et puis la création du doute par leurs adversaires. Cela dit, en faisant cela, Gilles-Éric Serralini a attiré l'attention de l'opinion, des médias et des responsables politiques sur des lacunes de la réglementation qui sont criantes, qui sont simplement un défaut de test réglementaire suffisamment ambitieux pour déceler des effets éventuellement subtils.
Pour ce qui est de l'industrie du tabac, le complot scientifique est du domaine de l'évidence. Pour ce qui est des semenciers, c'est selon Guillaume Mallory de l'ordre du pari kafkaïen. Aux États-Unis, par exemple, ce que l'on appelle les équivalences de substances ont obtenu, voici 20 ans déjà, que les produits alimentaires, issus de ce qu'il est convenu d'appeler les nouvelles plantes, aient le même cadre réglementaire que ceux issus des plantes non modifiées. En France, et sans même parler de conflit d'intérêts, sachant par exemple que le principe de Paracels, la dose fait le poison, est erroné, eh bien cette contre-vérité scientifique reste la base de notre réglementation.
La toxicologie réglementaire prévoit de tester ce qui entre dans la chaîne alimentaire sur des animaux à relativement forte dose et à partir de cette exposition à forte dose, de déduire la courbe dose-réponse, c'est-à-dire la manière dont le produit va agir sur l'organisme en prenant comme principe fondamental le fait que cette relation dose-réponse est une relation linéaire, c'est-à-dire que plus la dose est petite, plus l'effet est petit. En testant à haute dose le produit sur typiquement les rongeurs, le rat ou la souris, eh bien, on reconstruit une courbe dose-réponse linéaire à partir de laquelle on va déterminer un niveau où il n'y a pas d'effet remarqué. Ce niveau d'exposition où il n'y a pas d'effet remarqué, on va le diviser par un facteur de sécurité, de 10, puis de 10 encore, puis de 10 encore, pour prendre en compte les différences de métabolisme entre l'animal modèle et l'humain. Derrière ce protocole, il y a un principe fondamental qui a été énoncé par Paracels au XVIe siècle, qui est que c'est la dose qui fait le poison. C'est-à-dire qu'en gros, si vous avez une exposition très petite à un produit, eh bien cette exposition ne vous fera rien. Et donc, ce principe fondamental qui fonderait véritablement la toxicologie réglementaire est aujourd'hui scientifiquement caduc. Et il y a un nombre considérable, plusieurs centaines d'études qui montrent que certains produits, et en particulier les produits, ces perturbateurs endocriniens qui interfèrent avec le système hormonal, eh bien ces produits peuvent avoir des effets plus forts à faible dose qu'à haute dose. Et que donc, la manière dont nous testons, la manière dont nous évaluons la toxicité des produits avant de les mettre sur le marché est profondément caduque. Et là encore, ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'il y a des techniques, des méthodes qui sont mises en œuvre pour mettre cette science qui dérange un petit peu sous le tapis et pour ne pas, pour lui interdire finalement l'accès à la toxicologie réglementaire, c'est-à-dire pour ne pas simplement en tenir compte. Et donc il y a toute une partie des savoirs scientifiques, des connaissances qui sont acquises par la communauté savante, qui sont simplement ignorées par le système réglementaire.
Toujours en France, le bisphénol A sera interdit à partir de 2015. Mais tout de même, et parmi les interrogations qui tombent sous le bon sens, est-il bien raisonnable que certains industriels soient membres de groupes de travail en ce qui concerne le lait, les boissons énergisantes? Pour ce qui est des OGM, quand on préside la Commission européenne, on se sent évidemment tiraillé entre des intérêts divergents. Mais quand on est scientifique, le fait d'être sorti de son laboratoire pour être descendu dans la arène engendre le risque, assumé ou non, de servir de caution.
Alors déjà, il ne faut pas avoir l'idée, qui à mon avis est une idée fausse, qu'il y a des gens qui mentent et des gens qui disent la vérité. Je pense que tout le monde est persuadé de dire la vérité. Simplement, il y a des scientifiques qui sont, par nature, par penchant idéologique, par conviction personnelle, qui sont plus de certains côtés que d'un autre. Toute la question est de savoir si la science qu'ils mettent en œuvre est une science qui est, comment dire, en accord avec ce que découvre le reste de la communauté savante. Et souvent, ces scientifiques-là, qui sont en général très conservateurs, qui s'appuient sur des principes anciens, qui font une confiance aveugle, qui ont fondé une partie de leur carrière dessus, et donc qui n'ont pas envie profondément de revenir sur ces questions, eh bien, est-ce que ces savants, finalement, sont en rupture de banc ou pas avec la communauté savante et avec l'essentiel de la littérature scientifique qui est produite sur un sujet? Ça, c'est un premier point. Puis il y a aussi simplement, tout bêtement, la question des conflits d'intérêts et de savoir si des chercheurs, outre leur travail académique ou leur travail au sein d'un agence de sécurité sanitaire, travaillent comme consultants, par exemple, pour des entreprises, ont été engagés dans des travaux communs avec l'industrie. Non que ce soit moralement répréhensible ou quoi que ce soit, mais simplement, cela forge une manière de voir les choses et cela conduit à aboutir plus favorablement à certaines conclusions plutôt qu'à d'autres.
La fabrique du mensonge de Stéphane Foucart, une saine lecture en tous les cas, c'est aux éditions de Noël et dans toutes les bonnes librairies dès la fin du mois de mars.
C'était une interview réalisée par Pascal Margaggi.